Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal complet. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bon réveil à tous, il est 6h sur Europe 1.
Une petite partie a l'intention d'essayer de participer à une politique plus vertueuse sur un plan environnemental, et une infime partie est véritablement opérationnelle pour aller dans le sens, notamment la réduction des pesticides.
Le gouvernement n'en fait pas assez pour réduire l'usage des pesticides, dénonce Nicolas Hulot. 1% seulement des financements publics de l'agriculture française est destiné à des exploitations respectueuses de l'environnement. Dans ce journal, on vous racontera les coulisses de la guerre entre Suez et Veolia. L'ouverture tout à l'heure du procès en destitution de Donald Trump sans l'ancien président. Il préfère rester dans sa nouvelle résidence en Floride. Et puis l'Opéra de Paris va revoir ses critères de recrutement avec plus de diversité.
À suivre la page des sports avec Jérôme Lacroix. Et puis, que retiendrez-vous des confinements ? Mon invité inattendu se charge pour un grand musée de rassembler les objets qui auront marqué cette année écoulée. Les rassembler, les conserver pour l'histoire. Elle vient nous raconter dans un quart d'heure. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les pesticides explosent en France. C'est ce que pointe un rapport de la Fondation Nicolas Hulot, plus 25% depuis 10 ans, alors que l'objectif était d'arriver à faire baisser leur usage de moitié en 2025. Et un chiffre parlant révélé par le rapport, sur les milliards d'euros d'argent public, seul 1% est destiné à des exploitations bio ou agroécologiques. Virginie Salmen.
L'argent public finance le maintien des pesticides au lieu d'accompagner les agriculteurs vers un changement de modèle. C'est la conclusion de l'étude. Les subventions de l'Europe et du gouvernement tiennent compte de la surface, mais pas du modèle agricole, bio ou conventionnel. Caroline Faraldo, responsable agriculture et alimentation de l'ONG.
Un agriculteur qui utilise beaucoup de pesticides va pouvoir bénéficier d'autant de financement public que un agriculteur qui s'engage dans la transformation de son système ou même qui entretient un bocage ou qui entretient des haies qui sont très âgées, par exemple. Donc l'incitation n'est pas là.
Sur 23 milliards d'euros par an d'argent public, 11% seulement sont fléchés vers une réduction des pesticides et seul 1% a un véritable impact, selon Nicolas Hulot.
Une petite partie a l'intention d'essayer de participer à une politique plus vertueuse sur un plan environnemental, et une infime partie est véritablement opérationnel pour aller dans le sens, notamment la réduction des pesticides.
Et pour lui, c'est un moment charnière pour agir, puisque la France a encore 6 mois pour peaufiner son projet avant la future politique agricole commune, définie pour les années 2023 à 2027.
Les précisions de Virginie Salmen. Europe 1 continue à se mobiliser pour la jeunesse. Tout au long de la semaine, c'est notre opération Europe 1 solidaire. Ce matin, nous allons à Lille, où plusieurs entreprises veulent aider les étudiants à rompre leur isolement.
Et grâce au coworking, des sociétés ouvrent leurs espaces et leurs bureaux aux étudiants pour leur permettre de sortir de leur petit studio et changer d'air. Lionel Gougelot.
Ici, l'open space, finalement, avec tous les architectes qui bossent et des quelques bureaux qu'on met à disposition aux étudiants. Tous les jours, dans son agence d'architecture, Victor Lache accueille 4 à 5 étudiants qui profitent d'un espace de travail adapté.
Et juste à côté, on a notre salle de convivialité.
Et Morgane, étudiante en école d'art, en profite pour sortir de l'isolement.
Pour retrouver un peu du lien social, changer d'environnement de travail, éviter de tourner en rond peut-être, rencontrer plus de monde. Et c'est l'occasion d'avoir des échanges avec une pratique réelle, alors que nous, on a une pratique finalement très théorique, donc c'est une chouette initiative.
Et c'est gagnant-gagnant, puisque nous aussi, finalement, ça nous fait voir du monde qui change tous les jours, et ça permet de voir d'autres visages qui viennent aussi d'autres univers que le nôtre, et ça fait du bien aussi, finalement.
Autre décor, l'espace de coworking, la station à Mont-Saint-Barreul.
Il y a ici cet espace détente avec café, tout le confort pour se recevoir entre potes, un baby-foot, un jeu de fléchettes.
Nicolas Bataille, le gérant, ouvre lui aussi sa porte gratuitement aux étudiants.
Et puis l'espace de travail à côté, qui peut recevoir 8 personnes en situation de travail sans aucun problème, autant que ça serve à tout le monde et au maximum de personnes et surtout à ceux qui en ont vraiment besoin.
Et pour les deux jeunes chefs d'entreprise, un même constat, nous aussi, étudiants, nous aurions très mal supporté la situation que ces jeunes subissent. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et tout à l'heure à 8h15, face à Sonia Mabrouk, vous retrouverez l'étudiant youtubeur Gaspard qui avait interpellé le Premier ministre. Il sera l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure.
Et dans l'actualité aussi, les scientifiques de l'OMS en mission à Wuhan donneront une conférence de presse aujourd'hui pour parler de l'avancée de leur enquête sur l'origine du coronavirus responsable de la pandémie. Plus de 2,3 millions de morts dans le monde, selon le dernier bilan.
La bataille continue. continue entre Suez et Veolia. Le patron de Suez, Bertrand Camus, sera tout à l'heure face à Mathieu Béliard dans le tête-à-tête Europe Matin. C'est à 7h40.
Mais Suez qui refuse de se faire manger par son concurrent. Il appelle Veolia à chercher une troisième voie afin de sortir de ce conflit par le haut. Un duel historique, Emmanuel Dutheil, qui remplit les poches de nombreux intermédiaires.
Oui, hein, ce sont deux armées qui s'affrontent. Et bien évidemment, chacun a cherché à avoir les meilleurs combattants. Pour la bataille d'images, chacun a pris les meilleures agences de com' de Paris. Imachette et Havas pour Veolia, DGM et Publicis pour Suez. Chacun y est allé de ses pages de publicité dans les journaux. Les deux groupes ont aussi pris les meilleurs avocats, Jean-Michel Darrois ou Jean Veil, par exemple, chez Suez. Pour aller au combat, il faut aussi des banques conseils. Et là encore, on retrouve les plus grands noms. La banque de Jean-Marie Messier, côté Veolia, il connaît bien le dossier pour avoir été à l'origine de la création de Veolia. Il y a aussi Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, dirige la banque américaine Citigroup en France et elle assure la défense du conseil d'administration de Veolia. Suez a misé pour sa part sur Rothschild. On peut ajouter à cela les meilleurs lobbyistes. Bref, les deux groupes ne lésinent pas sur les moyens, ce qui fait dire à un ministre qui suit de près le dossier, ce n'est pas la crise pour tout le monde. Certains font leur année avec ce deal. On parle en effet de millions d'euros dépensés.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Météo France place 14 départements plus ceux d'Île-de-France en alerte orange neige-verglas. Les deux départements des Hauts-de-France sont concernés par une vigilance orange grand froid. En parallèle, à Saintes, la Charente devrait amorcer sa décrue aujourd'hui. Le fleuve a atteint son pic hier à 6,20 m. Nantes redeviendra-t-elle bretonne? Après la cité des Ducs vendredi, le conseil municipal de Rennes a voté hier en faveur d'un vœu de référendum pour une réunification de la Bretagne à 5 départements avec la Loire-Atlantique.
6h07 sur Europe 1. Donald Trump est de retour dans l'actualité aujourd'hui, moins de 3 semaines après son départ de la Maison-Blanche. C'est son deuxième procès en destitution qui s'ouvre tout à l'heure.
L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection après les émeutes du Capitole le 6 janvier dernier. Mais Alexis Guilleux, l'ancien président, a choisi de ne pas être présent à l'audience.
Oui, l'ancien président va rester dans son club de Mar-a-Lago en Floride. Il sera représenté par une équipe d'avocats qui estime que ce procès est une mise en scène dangereuse pour la démocratie et ne respecte pas la Constitution américaine. Tout simplement car Donald Trump n'est plus président des États-Unis, argument repris depuis plusieurs jours par une grande partie des sénateurs républicains, comme Lindsey Graham, proche de Donald Trump, invité de la chaîne CBS dimanche.
Nous n'avons jamais mis en accusation un président une fois qu'il avait quitté le pouvoir. C'est une très mauvaise idée. Aux yeux de la plupart des républicains, cette destitution n'est pas conforme à la Constitution.
La défense de Donald Trump va également invoquer la liberté d'expression pour expliquer le droit du président de douter et de contester les résultats des élections. Les démocrates espèrent remontrer grâce à des vidéos le lien entre les mensonges de Donald Trump et l'attaque du Capitole.
Et est-ce qu'on sait combien de temps va durer ce procès, Alexis ?
Non, pas encore, et c'est l'une des inconnues. L'an dernier, le premier procès en destitution de Donald Trump avait duré 3 semaines, mais républicains comme démocrates veulent aller vite. Les premiers craignent que le procès attise leur division, les secondes ne veulent pas ralentir le calendrier chargé de l'administration Biden. Les deux parties se sont donc mis d'accord sur des règles. 4 heures de discussion aujourd'hui, puis chaque camp aura 16 heures de temps de parole d'ici vendredi soir, avant une reprise des débats dimanche. En tout cas, l'issue de ce procès laisse planer peu de doutes. Les démocrates ont besoin du vote de 17 sénateurs républicains pour condamner Donald Trump, ce qui semble très improbable.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. De nouveaux rassemblements en Birmanie pour protester contre le coup d'État et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi. Dans la capitale, la police fait usage de canons à eau pour disperser les manifestants. Ce matin, la Nouvelle-Zélande fait savoir qu'elle suspend tous ses contacts militaires et politiques avec la Birmanie jusqu'à nouvel ordre.
Le cas d'Alexei Navalny continue de crisper les relations entre l'Europe et la Russie. À leur tour, Berlin, Varsovie et Stockholm expulsent des diplomates russes. Les précisions de Pierre Herbulot.
En Allemagne, en Suède et en Pologne, des diplomates russes sommaient de rentrer au pays. Inamical et infondé, selon Moscou. En réalité, c'est un simple retour de flamme. La semaine dernière, le Kremlin avait allumé la mèche en expulsant des diplomates européens. Leur tort, avoir assisté à la manifestation de soutien à l'opposant emprisonné, Alexei Navalny. Son cas cristallise les tensions entre l'Europe et la Russie. Les relations sont sévèrement tendues, reconnaît Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l'UE. Il réclame la libération de l'opposant et une enquête impartiale sur son empoisonnement l'été dernier. De nouvelles sanctions internationales sont même envisagées. C'est la 4e fois en 5 ans que des diplomates russes sont expulsés de pays occidentaux, chaque fois pour des affaires d'empoisonnement ou d'espionnage.
Et puis l'Opéra de Paris va prendre des mesures en faveur de la diversité.
Il n'y a que 6 danseurs noirs ou métis et une dizaine d'asiatiques parmi les 154 membres du ballet de l'Opéra de Paris. Un rapport sur la diversité et la lutte contre les discriminations a été remis hier au directeur de l'Opéra, Alexander Neff, et il a décidé d'agir. Diane Chenouda.
Pas question de renoncer aux grands ballets classiques comme le Lac des Cygnes, la Bayadère ou Casse-Noisette, mais fini le blackface ou le yellowface qui consiste à se colorer la peau pour ressembler à une personne noire ou asiatique. Et on ne blanchira plus la peau de certains danseurs. L'espoir, c'est qu'on n'entende plus ce genre de phrase rapportée par un des chargés de la mission sur la diversité à l'Opéra de Paris, Pape Ndiaye.
Des danseurs ou des danseuses qui nous disaient que quand ils étaient à l'école de danse, on pouvait leur poser la question « Mais toi, puisque tu n'es pas blanc, comment tu vas faire? Tu ne pourras pas danser dans le Lac des Cygnes, puisque tu n'as pas la bonne couleur de peau. »
Et le directeur de l'Opéra de Paris promet plus d'artistes issus de la diversité dès la saison prochaine. Cela passerait peut-être par l'école de danse, qui pourrait repérer les nouveaux talents partout en France, comme le suggère Constance Rivière de cette mission sur la diversité.
Il nous semble que c'est à l'école d'aller chercher et pas seulement d'attendre que les personnes arrivent, de faire ce que font en fait des clubs de sport qui vont essayer d'aller identifier partout des jeunes sportifs de talent, ben là, l'école de danse pourrait recruter partout en France, aussi dans les territoires d'outre-mer.
Un monsieur diversité, en tout cas, a été nommé. Ce n'est que le début.
Les explications de Diane Chenouda.
6h11 sur Europe 1, c'était le journal de Sophie Echen.